Lundi 17 novembre 1984, nous allons commencer donc l'étude de ces versets de l'épître de Jude, ces versets que vous avez lus, versets 1 à 7. Si nous avons choisi l'épître de Jude pour traiter le thème de cette fin de semaine qui est « Quand vient l'apostasie », c'est parce que cette courte épître, vous avez vu qu'elle contient seulement 25 versets, embrasse l'histoire de l'apostasie de la chrétienté depuis les premiers éléments du mal introduit dans l'Église jusqu'à ce que ce mal ait atteint son apogée par l'apparition dans ce monde de celui que l'Écriture appelle l'Antichrist ou l'homme de péché, dont vous avez lu quelque chose ce matin dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. C'est juste avant l'apparition de ce surhomme qui sera revêtu de toute la puissance de Satan, comme Jésus était revêtu de toute la puissance de Dieu quand il est venu la première fois, eh bien, c'est juste avant l'apparition de ce surhomme, l'homme de Satan, l'homme de péché, l'homme de l'iniquité, que l'apostasie sera arrivée à son comble dans le monde. Et hier soir, dans notre introduction, nous avons cherché à rendre clair pour vous le sens du mot apostasie. Et j'espère qu'il vous devient familier. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? C'est l'abandon et le rejet des vérités fondamentales du christianisme. Il ne s'agit pas simplement de s'écarter d'une opinion que l'on avait suivi jusqu'alors, mais il est question, quand on parle d'apostasie, d'une résistance, d'une révolte contre un enseignement qu'on a reçu autrefois et dont on ne peut s'empêcher de reconnaître la justesse au fond de son cœur, mais de cet enseignement, tout à coup, on n'en veut plus. Pourquoi? Parce qu'on veut suivre tout simplement les penchants naturels de notre chair. Comprenez-vous? On n'en veut plus de ces enseignements qu'on dit être moralisateurs. C'est dépassé tout cela. Nous vous faisions remarquer également hier soir dans notre introduction que contrairement à ce que beaucoup de baptisés croient et enseignent, le monde ne se convertira pas par la prédication de l'Évangile. N'allez pas dire que j'ai dit il n'y a pas besoin d'évangéliser puisque c'est inutile, le monde ne va pas se convertir par la prédication de l'Évangile. Mais on a entendu cette théorie. Et vous comprenez bien que si vous avez cette théorie, vous ne croirez pas au retour proche de Jésus-Christ. Parce qu'il mettra toujours dans ce monde des enfants de la chair. Hein? Ou bien est-ce que tout à coup, les enfants qui vont naître dans notre génération vont naître du Saint-Esprit? Ce serait magnifique. Hein? Non! Mais il y aura toujours des enfants qui naîtront de la même manière, de la chair, et qui entreront ni dans ce monde. Personne n'a apporté quelque chose en naissant. Ni je suis sorti du sein maternel, puis ni je retourne au sein de la terre. Alors, dire que quand le monde sera converti, alors le Seigneur pourra revenir, c'est dire que le Seigneur ne reviendra jamais, parce qu'il y aura toujours des naissances dans ce monde. Et pour ces naissances, il faudra des nouvelles naissant. Il faudra que ces gens renaissent à une vie nouvelle. Et pour renaître à une vie nouvelle, donc, il nous faut accepter l'Évangile. Or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous ne voyons pas le monde se christianiser, mais au contraire se déchristianiser partout, même après le passage du pape. Il a rassemblé ici dans le Québec et dans le Canada des grandes foules, mais est-ce que pour autant il y a plus de monde maintenant dans les églises? Et puis, ce n'est pas le monde dans les églises qui compte. C'est Jésus dans les cœurs. Le vrai temple où Dieu veut habiter, c'est le cœur de l'homme. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ce que Jésus et les apôtres, ce que les prophètes ont annoncé, c'est d'abord la corruption des vérités chrétienne. Puis, finalement, si vous lisez la Bible, vous voyez que ces vérités sont rejetées ouvertement. On ne veut plus en entendre parler. C'est vraiment la déchristianisation. L'apostasie, je le dis encore une fois, c'est l'abandon public d'une foi pour une autre. Et pour nous, c'est le rejet des vérités enseignées par Jésus et qui nous ont été transmises par les apôtres. Vous avez entendu parler d'Antiochus Épiphane, ce grand persécuteur des Juifs au temps des Maccabées. Et si vous avez une Bible version catholique, vous avez le livre des Maccabées. Eh bien, lui voulait obtenir l'apostasie des Juifs en leur faisant offrir des sacrifices aux idoles. Nous avons cela dans le premier livre des Maccabées, chapitre 2, verset 15. Il poussait les Juifs à sacrifier aux idoles. Et pour les Juifs, sacrifier aux idoles, c'était apostasier. L'apôtre Paul lui-même a été accusé d'apostasie. Au chapitre 21 des Actes, au verset 21, Jacques lui dit, on t'accuse partout de renoncer à Moïse. Ce n'était pas vrai. Paul montrait qu'on n'était plus sous la loi de Moïse. Mais il n'a jamais dit qu'il fallait renoncer à l'enseignement de Moïse. Il se serait mis en contradiction avec qui? Avec Jésus lui-même, qui a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Seulement, Paul montrait que nous étions arrivés sous une autre économie que l'économie de la loi, et qui était l'économie de la grâce. L'apostasie des chrétiens et des juifs, selon ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, doit donc précéder le triomphe de l'Antichrist. Et je dirais aussi que l'apostasie, l'idée de l'apostasie est encore, vous pouvez la trouver dans 1 Timothée, chapitre 4. Comment ça a commencé, au fond, dans l'Église chrétienne, 1 Timothée, chapitre 4, on voit que c'est une corruption de l'enseignement biblique. Verset 1er, il est dit, or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns, littéralement, c'est abandonneront, mais c'est apostasieront. C'est le même mot que abandon. Abandonneront la foi. Ou apostasieront de la foi. S'attachant à des esprits séducteurs, à des enseignements démons, disant des mensonges par vérité, par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée, défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par les fidèles, et par ceux qui connaissent la vérité, car toute créature de Dieu est bonne, et il n'y en a aucune qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Donc, l'apostasie commence par une corruption des vérités chrétiennes. Il y a ici, il est souligné quelque chose au sujet du mariage. Paul n'a jamais dit qu'il ne fallait pas se marier. Il a dit simplement pour les célibataires qui veulent suivre le Seigneur que quand on n'était pas marié, on pouvait donner peut-être tout son temps au Seigneur. Tandis que quand on est marié, on a des responsabilités et on n'a plus les mêmes libertés. Mais il restera toujours vrai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que Dieu a dit « Je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Donc, il nous faut lire l'Écriture tout entière. Et en dernier lieu, je dirais que dans Hébreux 3, verset 13, nous voyons très clairement ce qu'est l'apostasie, c'est abandonner le Dieu vivant. Mais rien d'autre que cela. Et c'est ainsi que cela finira dans ce monde. On se dressera contre le Dieu vivant. Une révolte ouverte contre Dieu. Alors l'épître de Jude va nous permettre de tirer des leçons importantes pour nous. Et vous allez pouvoir contrôler en quel temps nous sommes, premièrement, et vous laisser interpeller par le message inspiré. Nous saurons ce que Dieu veut être pour nous en ce temps-ci. Nous verrons aussi ce que les hommes sont pour Dieu aujourd'hui et ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Alors, je prends le verset 1 et 2. Qu'est-ce que nous trouvons dans ces versets 1 et 2 de l'épître de Jude? Nous trouvons le nom de l'expéditeur, puis les destinataires. Arrêtons-nous sur l'expéditeur. Qui est l'expéditeur de cette lettre? Il s'appelle Jude. Hein? Il s'appelle Jude. Et Jude veut dire louange de l'Éternel. Jude, qu'on peut appeler aussi Judas. Jude est une des formes du nom de Judas. Et il y a plusieurs personnages du siècle apostolique, outre le prêtre qui livra Jésus à ses ennemis, qui ont porté le nom de Jude ou de Judas. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Il y a Jude, qui est appelé fils de Jacques, qui était un des 12 apôtres. Vous pouvez lire Luc 6, verset 7. Alors on peut se demander, est-ce que celui qui a écrit l'épître de Jude était apôtre? Qu'est-ce que vous pensez? Non. Et nous aurons l'occasion de voir pourquoi Jude ne semble pas avoir été l'apôtre. Jude, que Jésus a choisi parmi les 12. C'était un des 12 apôtres, Jude. C'est lui, cet apôtre, qui a posé à Jésus cette question dans les entretiens de la chambre haute. Il dit au Seigneur, d'où viens-tu, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Nous avons ça dans Jean 14, verset 22. C'est une question que ce Jude apôtre a posée au Seigneur. Il y a donc Jude apôtre. Mais il y a aussi un Jude qui est appelé le frère du Seigneur. Jude, le frère du Seigneur. Il fait partie de la liste des parents du Seigneur. que vous trouvez dans Marc chapitre 6. Vous savez que les catholiques disent que c'était les cousins, tandis que dans le protestantisme, on pense plutôt que c'était ses frères. Nous n'allons pas nous bagarrer là-dessus. C'était les parents, des parents proches en tout cas du Seigneur Jésus. Marc 6, verset 2, il est parlé de, des frères et des sœurs du Seigneur, et parmi ses frères, il y en a un qui s'appelle Jude. Et dans le chapitre 7 de Jean, on apprend que les frères du Seigneur, d'abord, ne croyaient pas en lui. Dans sa propre parenté, Jésus a été rejeté. On n'a pas cru d'abord en lui. Et parmi ses frères, il y en avait un qui s'appelait Jacques. Et ce Jacques n'était pas un apôtre, mais il s'est converti, il semble, à la fin du ministère de Jésus. Le Seigneur lui est apparu et on le voit occuper une grande place à Jérusalem. C'est pour ça qu'on a toujours parlé de Jacques, Jacques qui n'était pas apôtre, mais qui était frère du Seigneur et qui serait l'auteur de quel épître ? L'épître de Jacques, qui n'est pas l'épître d'un apôtre, mais l'épître des frères du Seigneur. Et alors ici, Jude s'intitule simplement le frère de Jacques. Mais il ne dit pas qu'il est le frère du Seigneur. Mais comme Jacques est frère du Seigneur, Jude serait donc un des frères du Seigneur. Voilà pour l'auteur de cet épître. Maintenant, les autres Jude ou Judas, il y en a un qui est nommé dans les Actes des apôtres au chapitre 5 verset 37e. C'est un homme qui s'est fait passer pour le Messie, et c'est Gamaliel, le théologien juif, qui parle de ce Judas dont les prétentions ont été mises à jour et qui a raté au fond sa petite révolution contre les Romains. Vous voyez ça au verset 37 du livre des Actes. Après lui, quand Gamaliel a eu parlé devant le Sanhédrin de Thodas, puis il dit après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti et il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Au fond, Gamaliel prend la défense des apôtres qui sont accusés et dit, si ce ne sont pas vraiment des hommes de Dieu, ils périront. Et il donne ces exemples. Il y en a eu avant eux qui ont prétendu être les représentants du Seigneur et ils ont péri. Il y a donc ce Judas, et puis il y a aussi celui qui habitait Damas et qui a donné sa maison à qui ? Pour qu'il ait 3 jours de prière ? À Paul. Saul de Tarse s'est trouvé dans une certaine maison à Damas qui appartenait à un homme qui s'appelait Judas. Vous avez cela dans le chapitre 9 des Actes au verset 11. Et quand le Seigneur envoie Ananias pour parler à Saul de Tarse, verset 11 du chapitre 9, moi j'aime beaucoup cela parce que je trouve que le Seigneur nous montre qu'il connaît notre adresse. Le Seigneur dit à Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Il connaît le nom de votre rue. Vous aviez déjà pensé à ça ? Le Seigneur connaît la rue que vous habitez ? Bien sûr. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Il sait qui est le propriétaire d'une maison. C'est la maison de Judas. Puis il sait qui s'y trouve et il sait ce qu'on y fait. Car il prie. Il prie. Voilà un autre Judas, ou Jude. Puis il y avait aussi Jude, qui était appelé Barsabas, que vous trouvez aussi dans les Actes, au chapitre 15, verset 22, et qui était un homme considéré parmi les frères de Jérusalem. Et il est envoyé avec Silas pour accompagner Paul dans la ville d'Antioche, pour donner aux croyants d'Antioche le résultat du premier concile de Jérusalem. Voilà au sujet de Jude. Alors maintenant nous sommes un peu au courant, qui est le Jude qui a écrit cet épître? C'est donc un des frères du Seigneur. Et il s'appelle serviteur de Jésus-Christ, ou simplement esclave de Jésus-Christ. Au fond, c'est ce que nous devrions tous être. Nous devrions tous être des esclaves de Jésus-Christ. Ayant été délivrés de quel esclavage? L'esclavage du péché, nous devrions devenir esclaves de Jésus-Christ. Mais cet esclavage devrait être doux pour notre cœur. Mais nous devrions vraiment appartenir à Jésus-Christ comme un esclave appartenait autrefois à son maître. Pouvons dire, Jésus est mon Seigneur. Il m'a racheté, comme un esclave pouvait être acheté par un homme riche. Eh bien, nous avons été rachetés à grand prix. Nous appartenons au Seigneur. Ce Jude, donc, son titre, c'est esclave de Jésus-Christ. Puis il se nomme le frère de Jacques pour se situer. Et maintenant, après avoir vu qui est l'auteur de cet épître, nous avons maintenant les destinataires. J'en ai déjà dit quelques mots hier. Et je voudrais simplement souligner à ceux qui sont appelés, puis ensuite, et qui sont aimés en Dieu qui est connu comme Père, en Dieu le Père, et puis qui sont gardés. Soulignez bien ces trois mots, parce que, et méditez là-dessus, cette lettre s'adresse à ceux qui sont appelés. Est-ce que vous êtes des appelés? Le mot appelé, vous le retrouvez, c'est un mot technique qu'on retrouve presque dans toutes les épîtres. Je pense à Romains, chapitre 1, quand Paul leur adresse son message, il parle de ce verset 6, il dit que parmi les païens, vous aussi, vous avez été appelés par qui? Par Jésus-Christ. On est appelé. Vous avez cela dans les Corinthiens et enfin dans la plupart des épîtres. L'homme est appelé. Vous avez en particulier ce mot appelé dans le chapitre 8 des Romains au verset 28. Il est dit que ceux que Dieu a connus à l'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils pour qu'ils soient premiers-nés entre plusieurs frères. Donc, nous avons été prédestinés par Dieu dans son amour à être semblables à qui? Au Fils de Dieu, c'est-à-dire à Jésus. Mais voilà, il est arrivé la chute de l'homme, qui n'a pas accompli sa destination. Alors, ceux que Dieu avait prédestinés, il nous dit qu'il les a appelés. Et puis, ensuite, les ayant appelés, il les a justifiés, rendu juste, parce qu'on ne peut pas se tenir devant Dieu si on n'est pas justifié, et ceux qu'il a justifiés, il est dit qu'il les a aussi glorifiés. Donc, malgré le péché, malgré la chute, Dieu arrive quand même à son but, amener les hommes dans sa gloire. C'est ce que nous allons voir à la fin de cet épître. Le but de Dieu s'accomplira quand même, c'est lui qui aura le dernier mot. L'homme sera trouvé devant la gloire de Dieu, même irrépréhensible, comme s'il n'avait pas péché. Voilà l'œuvre de restauration complète que nous avons et qui est résumée dans cette si courte épître de Jude. Donc, vous êtes des appelés. Donc, cette épître vous concerne. Vous avez été appelés. Et vous savez qu'une fois appelés, ceux qui sont appelés, le Seigneur les justifie. Par quoi? Par leurs œuvres? Non, parce que vous ne seriez pas justifiés. Par la foi. C'est-à-dire en croyant en lui, en croyant en son œuvre. Donc, ils sont appelés. Et puis, ils sont, deuxièmement, aimés de Dieu, mais plus, littéralement, c'est aimé en Dieu. Et en Dieu qui est connu comme un Père. Dieu a donc l'initiative. C'est son amour qui est à la fois l'instrument et le but de l'appel qu'il adresse aux hommes. Si vous êtes appelé, c'est parce que Dieu vous aime. Et puis, il vous aime tellement qu'il veut vous remplir de son amour, pour que vous puissiez aimer votre prochain. Parce que ça, c'est pas possible. C'est par l'amour de Dieu que nous pourrons aimer notre prochain. Donc, c'est Dieu qui a l'initiative. C'est comme pour le peuple d'Israël. Est-ce que le peuple d'Israël a été aimé de Dieu parce qu'il était meilleur que les autres peuples? Ou parce qu'il était plus fort que les autres peuples? Non. Dieu dit, c'est parce que je vous ai aimé. Si vous avez été choisi, c'est pour quelle raison? Parce que vous étiez bien? Parce qu'il vous trouvait beau? Parce qu'il vous trouvait sage? Non. C'est parce qu'il vous a aimé. Et cela, vous devez en être convaincu. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu vous aime? Il faut aller vous regarder dans la glace, dans le miroir, puis vous dire, est-ce qu'il peut m'aimer? Puis vous vous faites des sourires pour vous rendre sympathique. Puis vous dire, est-ce que vraiment, il peut trouver un attrait en moi? Non. Dieu trouve dans son cœur le motif de nous aimer. Et même, quand il nous voit si misérables, c'est dans ce moment-là qu'il nous aime le plus. Comprenez-vous? Quand il voit qu'on n'a plus de prétention, qu'on cesse d'être de ces orgueilleux qui se croient forts, qui peuvent arriver à quelque chose, et quand il voit qu'on pleure plutôt sur sa misère, qu'on dit « j'arriverai jamais, ça ne peut pas se faire », alors, tout l'amour de Dieu vient à votre rencontre. C'est beau l'évangile. C'est beau, mes amis. C'est bon. Et surtout, c'est vrai. C'est ça qui est vrai. Dieu vous aime. Dieu vous a tant aimé, vous connaissez le verset par cœur, hein? Il vous a donné son Fils unique. Vous êtes donc aimé, mis à part. Vous êtes même, littéralement, Darby a traduit, bien aimé. Donc, mis sur le même rang que qui? Qui est le bien aimé? Jésus-Christ. Quand vous voulez savoir comment Dieu vous aime, souvenez-vous de la manière dont Dieu a aimé son Fils. Et vous apprenez que vous êtes aimé du même amour par Dieu qu'il a aimé son Fils. Vous ne trouvez pas que c'est bouleversant, ça? Mais est-ce que nous le croyons? C'est Jésus qui a dit cela, il ne peut pas nous mentir. Il dit, Père, dans le chapitre 17 de Jean, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, où parlez-vous de cette parole, vous êtes aimé en Dieu. Puis non seulement vous êtes appelé, vous êtes aimé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes gardé. Quant à l'avenir, on ne sait pas ce qui vient, on ne sait pas ce que nous serons demain. Eh bien, vous êtes gardé. Littéralement, vous êtes conservé, disons-nous. Conservé en Jésus-Christ, gardé par Jésus-Christ. C'est la même pensée que vous trouvez dans le chapitre 17 de Jean. Jésus dit, Père, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Vous êtes donc des hommes et des femmes, jeunes ou plus âgés, qui avaient été donnés par le Père, le Créateur, à qui? À Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a opéré l'œuvre de votre salut. Et Jésus-Christ ayant opéré l'œuvre de votre salut, il vous redonne à qui? À son Père, comme des gens réellement sauvés, comme des gens qu'il a purifiés, qu'il a justifiés. Et vous êtes gardés, vous pouvez être sûr de votre salut, rien ne peut vous perdre, vous êtes conservés en Jésus-Christ. Au fond, l'existence chrétienne est celle d'hommes et de femmes qui sont gardés en Jésus-Christ pour le salut, c'est-à-dire le salut final, parce que nous ne sommes sauvés qu'en espérance, nous sommes encore dans des corps de souffrance, hein. Et le plein salut, eh bien, ce sera d'être finalement délivré même de nos corps de chair pour revêtir des corps glorieux semblables au Seigneur. Eh bien, cela aura lieu malgré tout ce qui s'oppose, malgré tout ce qui est contraire, malgré la maladie, malgré la souffrance et malgré la mort, malgré notre vieillesse, nous marchons tous vers une jeunesse éternel. Et puis même si nous mourons, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a la résurrection. Le Seigneur l'a promis. Alors méditez sur cela. Puis, maintenant, dans le verset 2, vous avez la salutation proprement dite de Jude au destinataire de cette lettre. Et ce vœu compte combien d'éléments? On l'a dit hier, et si vous lisez et méditez, il y en a 3. Habituellement, quand vous lisez les épîtres de Paul, quand il parle aux églises, il y a combien d'éléments? 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ici, il y en a 3. Et dans les épîtres de Paul, c'est seulement quand il écrit à quelqu'un de personnel qu'il met la miséricorde. De sorte que dans cet épître de Jude, puisqu'il y a 3 éléments dans son vœu, ça veut dire que cet épître s'adresse à chacun de nous individuellement. Vous pouvez prendre réellement cet épître pour vous-même, parce que il y a la miséricorde pour vous. Et la miséricorde, c'est quoi? C'est le pardon. C'est le pardon. La miséricorde, la paix et l'amour. Au fond, quant au passé, qu'est-ce que vous devez savoir quant à votre vie passée? Vous êtes pardonné. Vous connaissez la miséricorde du Seigneur. C'est par sa miséricorde que vous êtes réconcilié. Le fils prodigue, quand il est revenu à son père, il a reçu son pardon. Et il a été introduit dans la maison. Alors, c'est quelque chose de merveilleux quand nous y pensons. Au fond, Jude fait dans ses vœux une véritable description résumée de toute la vie chrétienne. Notre vie chrétienne, elle est fondée sur quoi d'abord? Sur le pardon de nos péchés. Hein? C'est-à-dire, notre relation avec Dieu est retrouvée. Et la vie chrétienne commence pour nous par le pardon de Dieu et elle se continue dans quoi? Dans une authentique communion avec Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette communion avec Dieu, après le pardon, qu'est-ce que nous avons maintenant? La paix. On a la paix avec Dieu, on a la paix de Dieu dans notre cœur, au travers des circonstances, nous vivons en communion avec Dieu et nous avons la paix. La paix de Dieu qui surpasse, disions-nous, toute intelligence, vient garder nos cœurs qui pourraient s'agiter, et nos pensées qui pourraient se troubler, elle les garde en Jésus-Christ. Et donc cette vie chrétienne qui est basée sur le pardon de Dieu, qui se poursuit dans la communion avec Dieu, dans la paix, elle s'enracine dans quoi de plus en plus? Dans l'amour. Est-ce que vous avez fait des progrès? Dans la connaissance de l'amour de Dieu. Est-ce que vous y croyez que Dieu vous aime? Indépendamment de ce que vous êtes. Et indépendamment de la mesure de votre amour pour lui, Dieu vous êtes. Alors, vous devez être enraciné dans quoi? Dans l'amour de Dieu. Et je voudrais vraiment que ma vie puisse servir dans ces dernières années à enraciner les âmes, non pas parce que je m'appelle Racine, mais à enraciner les âmes, à fonder les âmes dans l'amour. Il y a tellement de gens qui doutent de l'amour de Dieu pour un oui ou pour un non. Parce qu'ils ont une épreuve, ils croient que Dieu ne les aime plus. Et c'est justement parce qu'il les aime tellement. Celui que le Seigneur aime, il le discipline, il le châtie. C'est justement la preuve que nous sommes ses enfants et que nous ne sommes pas des bâtards. Il s'occupe de nous. Et vous l'avez entendu ce matin, il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Ce sont des choses qui doivent être en vous non plus dans les pages de ce livre noir ou brun, peu importe la couleur de la couverture de la Bible, mais les paroles bibliques doivent être écrites dans quoi? Dans nos cœurs, pour que si un jour nous sommes persécutés ou mis en prison et que nous ne puissions plus lire la Bible, nous voyons notre Bible écrite dans nos cœurs. Et que le Saint-Esprit puisse nous rappeler ces textes, même si nous n'avons plus de livres. J'ai connu un pasteur, et ma femme aussi, c'était un Neuchâtelois de mon pays, il s'appelait Roland de Purie. Il a été mis en prison pendant la guerre. Eh bien, il avait appris l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, par cœur, autrefois, et il a écrit tout un commentaire dans la prison de Saint-Luc à Lyon, en France. Il a écrit un commentaire sur la première épître de Pierre, simplement sur des petits bouts de papier. Il avait trouvé des petits bouts de papier, un crayon, il cachait cela. Et quand il est sorti de prison, il avait écrit un commentaire sur la première épître de Pierre, sans avoir sa Bible. Mon père me disait toujours que quand il était au catéchisme, il y a bien longtemps de cela, eh bien, on les obligeait à apprendre toute une épître par cœur. Lui, il avait appris par cœur l'épître de Jacques. Et il savait par cœur l'épître de Jacques. Même à 80 ans. Ça vaut la peine d'apprendre cela quand on est jeune encore. Donc, notre vie chrétienne doit s'enraciner dans l'amour de Dieu. Le pardon, la paix et l'amour qui sont sans cesse nécessaires doivent même abonder et se multiplier. La vie chrétienne n'est pas une vie statique, c'est une vie dynamique. C'est une vie, c'est une force. Et il y a sans cesse dans la vie chrétienne un renouvellement. Ce salut dont il est question, c'est un salut qui se renouvelle de jour en jour. De sa plénitude, nous recevons grâce sur grâce. La grâce dont nous avons besoin aujourd'hui, dans notre besoin précis, et puis demain nous recevons la grâce dont nous aurons besoin. Mais nous devons nous attendre à cette grâce. Nous devons compter sur cette grâce. Et si vous comptez sur cette grâce, elle ne fera point défaut. Parce que notre espérance n'est pas une espérance trompeuse, n'est pas une espérance vaine. Alors, prenez maintenant les versets 3 à 4. Vous voyez, j'essaie de vous montrer comment on mange la parole, hein, comment on médite la parole, comment on entre, comme on dit, en oraison, comment on repasse la parole dans nos cœurs. Ça, c'était le principe de Marie, la mère bénie de notre Seigneur. Il est dit que toutes les paroles qu'elle entendait de Jésus, elle les repassait dans son cœur. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Alors, on prend cela pour soi, qu'on les repasse dans nos cœurs. Verset 3. Bien-aimés, je vous ai dit hier que vous pouviez noter les noms qui vous sont donnés. Vous êtes appelés, vous êtes aimés, ou bien-aimés, vous êtes gardés, conservés. Et nous voyons plus loin. Bien-aimés, comme je désirais vivement de vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors, nous étudions maintenant ces versets 3 et 4 qui nous donnent l'occasion et le but de cette lettre. On trouve dans ces versets 3 et 4 l'occasion et le but de cette lettre. D'abord, il les appelle bien-aimés. Et qu'est-ce qu'il désirait faire, ce Jude? Il désirait leur écrire au sujet de leur salut qui leur était commun. Commun à qui? À lui, et puis à eux. Donc, vous voyez tout de suite que la religion chrétienne, ou j'aime mieux dire, l'évangile n'est pas une doctrine pour des initiés. Et cela, ça règne. Tous ces mouvements d'élitisme où l'on vous parle qu'il faut être initié. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un tel mouvement où on vous dit, ah, ça c'est pas pour vous. Il faut être un initié. Il faut que vous ayez une intelligence tout à fait particulière. Il faut que vous ayez suivi certaines études. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélés aux petits enfants. Donc, la doctrine chrétienne, elle est pour tous. Tous peuvent être amenés au salut. La grâce de Dieu, elle est apparue à tous les hommes. Quand on vous dit que dans ce milieu-là, bien, il faut savoir certaines choses, il faut pouvoir faire certaines choses pour faire partie de ça, ce n'est pas de Dieu. Vous pouvez être tranquille. Éloignez-vous de cela. Vous avez à suivre le Seigneur. Et Jude voulait écrire à des gens qui étaient sauvés comme lui. Il voulait leur écrire au sujet de ce commun salut. Mais pour pouvoir écrire au sujet du commun salut, d'un salut qui nous est commun, il faut en savoir quelque chose de ce salut. Alors je voudrais vous poser très affectueusement cette question. Qu'est-ce que vous savez ce matin au sujet de votre salut? Qu'est-ce que vous pourriez dire au sujet du salut? Quand on vous demanderait, mais qu'est-ce que c'est que le salut? Est-ce que vous pourriez écrire quelque chose au sujet du salut? Qu'est-ce que c'est le salut? Le salut, oui, vous l'avez dit, c'est Jésus. D'abord, c'est ça. Hein. Le salut, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et vous pouvez relire l'Ancien Testament, vous trouverez toujours que le salut, c'est d'abord quelqu'un. Quelqu'un. On trouve cela déjà dans l'Exode, au chapitre 15, dans le cantique qu'on appelle le cantique de Marie et que la sœur de Moïse et d'Aaron a chanté avec les Israélites. Eh bien, après avoir été délivrés de l'esclavage, verset 2 du chapitre 15, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Un autre texte dit, c'est lui qui est mon salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? C'est l'Éternel. Le salut, donc, c'est quelqu'un. Prenez dans les psaumes, le Seigneur est la force de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Psaume 27e. Donc, qui est le salut? C'est quelqu'un. Qui est-ce qui a dit, en tenant Jésus dans ses bras, mes yeux ont vu ton salut? C'est en effet Siméon. Siméon regarde dans Jésus, a dit, mes yeux ont vu ton salut. Jésus, c'est le salut de Dieu. Et avant Siméon, si vous lisez le chapitre 49 de la Genèse, vous voyez que Jacob, mourant sur son lit de mort, s'écrie alors qu'il bénit ses enfants et qu'il leur fait ses dernières recommandations, tout à coup il s'arrête et il dit, j'ai attendu ton salut. Et littéralement, c'est le même mot, on peut dire, j'ai attendu ton Jésus. J'ai attendu ton Jésus, j'ai attendu ton salut. Donc, Jacob, lui aussi, il avait cette espérance dans son cœur, et pour lui, le salut, c'était quelqu'un. Maintenant, ce salut, qu'est-ce que vous savez encore? Vous savez maintenant que c'est quelqu'un.
Mais ce salut, il nous est donné comment? À cause de nos mérites? Non, par grâce. Hein? Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire en croyant en Jésus. Vous recevez Jésus, mais c'est une grâce. Et qu'est-ce que c'est qu'une grâce? C'est un don gratuit. Hein? Vous êtes sauvés par grâce. C'est un don qui vous est fait. C'est quelque chose de gratuit, mais qui a une valeur infinie. Alors, donc, vous savez que le salut est par grâce. Et maintenant, est-ce que vous savez que votre âme est sauvée? Quant à vos péchés, est-ce que vous avez encore des doutes? Jésus est mort pour vos péchés. Hein? Il est mort où? Sur la croix pour vos péchés. Donc, votre âme est sauvée quand vous croyez au sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort pour lui-même, il est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. Ça, c'est le salut, si j'ose dire, dans le passé. Hein. Mais dans le présent, puisque nous sommes sauvés, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons vivre en sauvés. Nous devons vivre vraiment en sauvés. Le monde doit voir que nous sommes vraiment des sauvés. Et c'est pourquoi, dans le présent, il est dit « Travaillez à votre propre salut. » Parce que vous êtes sauvés, eh bien, vivez selon Jésus, selon sa propre vie. Laissez Jésus vivre en vous. C'est ça. Travaillez à votre propre salut. Vous avez ça dans l'Épître aux Philippiens. C'est le salut dans le temps présent. Et puis, quant au futur, le salut futur, si on devait en parler, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons du ciel Jésus comme sauveur qui transformera le corps de notre humiliation en la conformité de son corps de gloire. Nous aurons un corps semblable à Jésus. Alors, c'est en cela qu'il est dit que nous sommes sauvés en espérance. Un jour, nous ne serons plus dans ces corps d'humiliation, de faiblesse. Nous aurons des corps semblables au Seigneur. Donc, vous voyez que Jude voulait écrire à ses croyants au sujet de leur commun salut. Il y a beaucoup de choses à dire sur notre salut. On pourrait s'édifier les uns les autres en parlant de ces différents aspects du salut. Salut passé, salut présent, salut futur. Je voulais vous écrire au sujet de notre commun salut, ça aurait été très édifiant, mais il dit, je me suis senti obligé de le faire, donc de vous écrire, afin de vous exhorter. Il change un petit peu sa pensée, au lieu de s'édifier sur ce commun salut, il leur dit, il vous faut maintenant combattre. Combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Qu'est-ce que c'est combattre pour la foi? Au lieu de se dire simplement, ben, je suis sauvé, j'ai la paix avec Dieu, je connais l'amour de Dieu, voilà tout à coup qu'il est dit, tu sais, tu es un soldat. Hein? Parce qu'il est question de combattre, il faut comprendre que nous sommes devenus des soldats. Et pour quelle raison est-ce que Jude s'est senti poussé de changer un peu le thème de sa lettre? C'est parce que, verset 4, il le dit, il s'est glissé parmi vous, qui? Certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, et il les appelle des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur, Jésus-Christ. Voilà que, tout à coup, il dit, il faut combattre pour la foi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ici, cette foi dont il parle? La foi qui a été transmise aux saints. Là, ce n'est pas la foi subjective, c'est ce qu'on appelle la foi objective. La foi, d'abord, c'est donc la croyance qui repose sur un témoignage. La foi, c'est la croyance, littéralement, qui repose sur un témoignage. Mais il y a plusieurs sens au mot « foi ». Dans l'Écriture. Et c'est toujours le contexte qui nous montre le sens du mot foi. Nous avons eu toute une étude ici même au sujet de la foi. Et nous vous avons fait remarquer que dans les épîtres de Paul à Timothée, comme aussi dans cette épître de Jude, la foi exprimait l'ensemble des vérités chrétiennes. Non pas cet acte par lequel vous adhérez au témoignage, mais la foi, c'est l'ensemble des vérités chrétiennes. La foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. C'est la révélation des pensées de Dieu. C'est ça, la foi. Et il nous faut combattre pour cette foi, pour ces vérités qui nous ont été données et qui s'appellent la foi, foi objective. Et c'est en combattant pour maintenir ces vérités que nous pourrons triompher. Et quand il est dit que cette foi a été transmise au saint, vous voyez encore une fois un autre nom qui est donné aux croyants, ils sont des saints. Est-ce que vous avez besoin d'attendre une canonisation pour être un saint? Dès l'instant où vous croyez, vous devenez un saint. C'est-à-dire, vous êtes mis à part pour qui? Pour Dieu. Vous êtes mis à part pour le Seigneur. Et les vérités qui vous ont été transmises, est-ce qu'elles peuvent changer? Non. Elles ne sont pas à modifier. Comprenez le bien. Aujourd'hui, on veut tout modifier. On dit, on est bientôt dans le 20e siècle, tout se modifie, il faut aussi modifier la foi. Il faut un néo-christianisme. Et ce néo-christianisme, ça sera justement la négation de la vraie foi qui nous a été transmise une fois pour toutes par Jésus d'abord, qui nous dit qu'il n'a pas parlé en son propre nom, mais que l'enseignement qu'il nous a donné, c'est l'enseignement de qui? Il dit, je n'ai pas parlé de moi-même. Ce que je vous ai dit, ça vient du Père. C'est un enseignement qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous vous dites, mais tout change, il faut aussi changer cette parole, il faut la modifier. Non. Il n'est pas question de la modifier. C'était transmis au saint une fois pour toutes. Et alors, je vous donne cette indication pour ceux qui aiment se nourrir. Étudiez dans le Nouveau Testament l'expression une fois pour toutes. Ce serait vraiment formidable, mais je n'ai pas le temps maintenant. Hein. Mais on pourrait faire une étude merveilleuse sur chaque fois qu'il est dit que quelque chose a été fait, une fois pour toutes. Est-ce que le Seigneur doit souffrir une seconde fois? Non, il a souffert une fois pour toutes. Et puis, par son œuvre, vous êtes vous-même sanctifié une fois pour toutes. Vous retrouvez. Et il est dit qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et ça s'est fait une fois pour toutes. Vous pouvez retrouver cette expression une fois pour toutes, surtout dans l'épître aux Hébreux. Une fois pour toutes. C'est fait. Alors, ça c'est à vous à méditer. Hein, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Alors, on voudrait un peu connaître ces hommes. Paul avait averti les anciens d'Éphèse, au chapitre 20 des Actes. Vous pouvez reprendre ce texte quand il fait ses adieux aux anciens d'Éphèse. Il leur dit, au chapitre 20 des Actes, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais, verset 29, qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous. » Donc le mal vient, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Hein? Eh bien, ce sont ces hommes-là que l'apôtre Paul avait désigné et dont Jude parle. Il s'est glissé parmi vous certains hommes. L'apôtre Pierre, vous avez lu ce matin quelque chose au sujet de ces hommes, de ces faux docteurs. Ils se disent docteurs, ils prétendent être des chrétiens, ils prétendent être des sauvés même, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Alors, il faut les discerner, ces certains hommes. L'apôtre Jean nous en parle aussi dans son épître, dans le chapitre 2 et dans le chapitre 4. Il dit, ces gens ne sont pas des nôtres, car s'ils étaient des nôtres, n'est-ce pas, ils seraient restés avec nous. Mais ils se sont séparés, du milieu de nous. Mais ils se sont levés au sein de l'Église. Et Jésus avait bien annoncé cela. Dans une parabole. Quelle parabole? La parabole de l'ivraie. Il leur dit qu'un homme a semé la bonne semence dans son champ. Et puis, pendant que ses serviteurs dormaient, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on a semé l'ivraie. Et les serviteurs viennent dire, oh, mais n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? Oui. Mais voilà, il y a de l'ivraie. Et qu'est-ce que répond le Seigneur? Un ennemi a fait cela. Alors les serviteurs disent, est-ce que nous devons aller arracher l'ivraie? Qu'est-ce que Jésus dit? Non. Laissez-les croître, les deux, ensemble, jusqu'au temps de la moisson. Pourquoi? De peur, parce que l'ivraie ressemble tellement au bon grain qu'en voulant arracher l'ivraie, on se trompe et qu'on arrache le bon grain. Et chaque fois qu'au cours de l'histoire de l'Église, on a voulu, soi-disant, arracher l'ivraie, se séparer des hérétiques, bien souvent, on les a brûlés et puis après, on a vu que c'était les vrais croyants. On a fait un tas d'erreurs. Ainsi, par exemple, je dis seulement ça comme référence, Jeanne d'Arc, on l'a brûlé, puis maintenant, on l'a canonisé. Ça lui a fait du bien. Après être brûlé, vous êtes canonisé. C'est l'Église qui fait des trucs comme ça. Alors, vous comprenez qu'on n'y croit plus beaucoup à ces Églises. Alors, attention. Il s'est glissé, donc, parmi vous, des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Alors là, on pourrait aussi faire toute une méditation. Elle est écrite depuis dans quoi, cette condamnation? Où est-ce que c'est écrit? Dans les livres célestes. Alors ça serait passionnant aussi que vous fassiez l'étude des livres célestes à travers toutes les Écritures. Il y a des livres célestes, est-ce que vous le savez? Il y a des livres célestes. Dans le ciel, il y a des livres. Puis ça devrait vous intéresser. Vous savez ce qu'il est écrit dans ces livres? D'abord, vous devriez vous réjouir que vos noms y soient inscrits. Et que Jésus vous promette qu'ils ne seront pas effacés. Il y a d'abord le livre de vie. Et vous savez que c'est Moïse qui a dit le premier à Dieu. Il parle de ce livre dans le chapitre 32 de l'Exode, au verset 22. Moïse dites à Dieu quand il intercède pour le peuple d'Israël, quand Dieu dit « J'en ai assez de ce peuple, je m'en vais le détruire. » Moïse dit « Seigneur, efface-moi plutôt de ton livre, mais sauve le peuple. » C'est beau ça, hein? C'est un type qui dit « Que moi je sois sauvé, tant pis pour les autres. » Il dit « J'aime mieux que je sois perdu et que les autres soient sauvés. » Voilà le vrai amour, le vrai amour. En Dieu, efface-moi de ton livre. Il y a donc un livre. Un livre où sont écrits nos noms. Mais quand on refuse le Seigneur, il arrive un moment où notre nom pourrait être rayé, effacé. Alors, vous avez ce livre aussi dans Ésaïe 4, verset 3. Ça s'appelle le livre des vivants. Vous avez Ésaïe 65, verset 6, un livre de jugement. Mais il y a aussi des livres où sont écrits dans les psaumes, psaume 56, verset 9, vos larmes. Vous saviez qu'elles étaient écrites dans son livre. Tu mets mes larmes dans tes vaisseaux, dans tes vases. Elles sont toutes écrites dans ton livre. Oh, mais vous dites, mais moi, mes larmes, c'était dans mon mouchoir. Non. Les larmes que vous avez versées, elles ont du poids. Et elles sont écrites dans le livre de Dieu. C'est fantastique, ça. Vos larmes, elles ne tombent pas seulement dans un mouchoir. Vos larmes, elles sont écrites dans le livre de Dieu. Il voit vos larmes. Et j'aimerais vous faire une méditation sur les larmes à travers toute l'Écriture. Dieu est sensible à vos larmes. Jésus lui-même, il a pleuré. Quand il a vu pleurer Marthe et Marie, il a dit, Jésus pleura. Il y a un livre où est écrit nos larmes. Puis, il y a ce fameux livre de vie du psaume 69, verset 29. Puis aussi, le livre au psaume 139, où il est parlé de la manière dont un enfant est formé dans le sein maternel. Tous nos membres sont écrits dans son livre. Une femme qui est en grossesse, eh bien, elle doit penser que... Elle a toujours peur qu'il manque un membre à son enfant. Hein. Tous tes membres ne sont-ils pas écrits dans mon livre? Et alors, la voilà qui sera rassurée. Psaume 139, verset 16. Puis on pourrait parler de Daniel 7, au verset 10, où il est parlé de ses livres célestes. Daniel 12, verset 1er. Et Jésus qui dit à ses disciples, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre. » Luc 10, verset 20. Puis, Philippiens 4, verset 3, c'est Paul qui parle du livre, et il parle du livre de vie. Il dit que deux femmes, vous voyez que Paul, on dit toujours qu'il était contre les femmes, c'est pas vrai. Il cite les noms de deux femmes, Évodie et Saint-Tige, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Puis, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5, il est parlé de ne pas être effacé du livre. Et puis, dans le jugement final de Apocalypse 20, verset 12, il est dit, les livres furent ouverts et le livre de la vie. Et donc, toutes nos œuvres, tout ce que nous avons fait, comme aussi toutes nos paroles, tout cela, c'est écrit dans les livres. Bien, que le Seigneur nous parle au sujet de ces livres. Oui, la condamnation de ces gens, elle était écrite d'avance, depuis longtemps. La condamnation, ils n'étaient pas destinés par écrit à la condamnation, mais la condamnation de ces gens était écrite. C'est pas leur destin là qui était écrit, c'est vraiment des criminels et leur sentence, la sentence de ces hommes est écrite et annoncée dans les Écritures. Ils sont appelés des impies. Je lui dis, ce n'est pas le destin de ces hommes qui est réglé d'avance, depuis toujours par Dieu, mais plutôt le sort qui attend ceux qui se conduisent comme des impies et des blasphémateurs. Ça, vous pouvez en être sûr. Hein. Si vous vous conduisez comme des impies et des blasphémateurs, vous pouvez vous dire sauvé, mais vous ne le serez pas. Si votre conduite ne correspond pas à la doctrine que vous professez, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes un impie. Et qu'est-ce que c'est vraiment qu'un impie? C'est quelqu'un qui, il l'est dit ici, qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux choses qu'il fait. Un impie. C'est donc un homme qui n'a pas de piété, c'est-à-dire qui n'a pratiquement pas de relation avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que la piété? C'est notre relation avec Dieu. Bien, un impie, c'est un homme qui se réclame peut-être encore de Dieu, mais qui n'a en vérité pas de relation réelle avec Dieu. Et l'impiété est un des termes classiques dans l'Écriture pour désigner les adversaires. Être impie, c'est changer la grâce de Dieu en débauche. Et voyez-vous, au début du christianisme, le risque a été grand que soit confondue la libération du péché avec la permission de faire n'importe quoi. Et Paul a dû combattre contre ce malentendu. Quand il dit aux Romains 6, quand il a parlé de Christ mort pour nos péchés, alors bonne affaire, disent les gens, si Christ est mort pour nos péchés, eh bien, péchons afin que la grâce abonde. Si là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, eh bien, péchons afin que la grâce abonde. Mais si quelqu'un dit cela, est-ce que vous croyez qu'il est sauvé? Non, il n'est pas sauvé. Parce que si vous avez compris ce que votre salut a coûté au Christ, ça lui a coûté quoi? La croix. Vous devez avoir en horreur le péché. Et si vous êtes délivré du péché, c'est pour devenir l'esclave de qui? De Jésus-Christ. Alors, se prétendre spirituel et prendre prétexte de notre spiritualité pour vivre dans la débauche, eh bien, c'est quelque chose d'abominable. Le salut, si j'ose dire ainsi, il nous lie à qui? À Dieu. Et il ne nous autorise pas à accomplir notre propre volonté. Mais je le sais, ma propre fille en Israël m'a dit un jour, tu sais papa, il y a un Américain qui est venu là dans le kibboutz, il voulait absolument coucher avec moi. Puis elle résistait évidemment. Alors il lui disait, mais ça ne change rien, nous sommes des êtres spirituels. C'est seulement avec ça que tu couches. Et puis, il palpait sa viande. Mais c'est notre corps, c'est de la viande. Hein. Un jour, c'est du cochon, un jour, c'est du veau, un jour, c'est du poulet. Et puis, peut-être une poule. Et puis, voilà. Mais ça ne nous touche pas. Nous sommes des êtres spirituels. Alors, je crois aussi en Jésus-Christ. Mais on couche et on recouche. Puis on se dit chrétien. Non. Attention. Attention. C'est ça, changer la grâce. C'est abuser de la grâce. La grâce vous place en Dieu. Et c'est ça que vous devez comprendre. Alors voyez, ces hommes, ils se disent spirituels, mais ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et puis, la seconde chose, qu'est-ce qu'ils font? Il renie notre seul maître et Seigneur, Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si Jésus est votre sauveur, ça tout le monde l'accepte. Hein? Que Jésus soit le sauveur, ça c'est beau. Hein? Alors on fait une petite évangélisation pour vous faire accepter Jésus-Christ comme sauveur. Mais on oublie de vous dire que s'il est votre sauveur, il est aussi votre Seigneur. Et si Jésus est notre Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lui obéir. La foi qui sauve n'est pas autre chose qu'une obéissance. Nous sommes sauvés, nous sommes amenés à l'obéissance de la foi. Nous obéissons à son enseignement. Et ce n'est plus une obéissance servile, pénible, c'est une joie. Ça doit devenir notre joie. Parce que le Saint-Esprit nous donne une nouvelle nature, de nouveaux désirs qui sont conformes à la nature de Dieu, et non pas conformes à notre nature qui est terrestre, qui est animale, et qui peut devenir diabolique, hein, si nous résistons. Alors, que le Seigneur vous fasse discerner cela. Qu'est-ce que sont ces impies? C'est des gens, donc, l'impiété, c'est donc changer la grâce en dissolution, en débauche, c'est abuser de la grâce, puis être impie, c'est renier le seul maître et seigneur qui est Jésus-Christ. Et ce maître et seigneur Jésus-Christ, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Et ce que Jésus-Christ est venu nous apprendre, c'est la pensée de Dieu à l'égard de toute chose, c'est pour ça qu'il disait qu'il était la vérité. Et la vérité, c'est la pensée de Dieu à l'égard de toute chose. Eh bien, ces hommes renient Dieu par leurs actes qui traduisent concrètement un reniement de un abandon spirituel et théologique de la foi qui était transmise aux saints. Et voilà, nous devons combattre. Nous devons combattre. Et c'est vrai, Jésus a parlé de ce combat. Lutter pour entrer par la porte étroite. C'est un combat moral. Hein. On veut marcher dans le chemin étroit. On ne veut pas marcher comme tout le monde, dans le chemin large du monde. Alors il y a une lutte. Il y a une lutte morale. Mais c'est aussi un combat militaire. Vous êtes des soldats. Et comme militaire, vous recevez, si vous êtes un soldat, une armure pour combattre. L'armure complète de Dieu. Ça, c'est Éphésiens 6. Et puis, vous êtes aussi, dans ce combat, vous êtes, c'est aussi un combat sportif, si j'ose dire ainsi. Paul parle d'une course, hein, et il parle d'un athlète qui n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois, selon les règles. Et il dit que quand on veut être engagé dans la lutte, dans un combat, eh bien, il nous faut vivre de régime en toutes choses. Et est-ce que c'est vrai que les grands sportifs vivent de régime? C'est vrai, hein? Il n'y a que les chrétiens qui veulent une vie facile. C'est épouvantable. On veut être couronné, mais on veut une vie facile. On est sauvé, on est des sauvés, on fait ci. En wagon-lit pour le ciel. Non. C'est pas ça. C'est une marche de tous les jours. Alors, nous devons prendre conscience que nous sommes dans un combat parce qu'il y a un adversaire, un ennemi. Mais cet ennemi, nous en triompherons. Et maintenant, on va s'arrêter, mais je veux juste introduire les trois exemples que l'apôtre que Jude, pardon, nous donne pour nous avertir qu'il ne faut pas nous y tromper. Hein. Verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Est-ce que c'est vrai qu'on sait fort bien toutes ces choses? Mais même si vous les savez fort bien, et si moi je crois les savoir fort bien, j'ai besoin de m'en rappeler. Hein, que celui qui pense être de vous prenne garde qu'il ne tombe. Hein. Vous qui savez fort bien toutes ces choses. Vous savez que, alors ça c'est tout votre, ce que vous appelez votre catéchisme peut-être, ou bien votre histoire sainte, hein, et qui ne nous touchait pas. On dit, oh, ça c'est des vieilles histoires, l'histoire sainte, je connais tout ça. Ou ces gens qui nous disent, moi j'aime bien le Nouveau Testament, mais j'aime pas l'Ancien Testament. C'est pas l'Ancien Testament. Bande de menteurs. S'ils vous disent qu'ils aiment le Nouveau Testament et qu'ils ne lisent pas l'Ancien Testament, je ne les crois pas. Parce que vous ne pouvez pas lire le Nouveau Testament sans revenir toujours à l'Ancien. Hein? Regardez ici. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, quel peuple? Et c'est dans quel livre qu'on trouve ça? Dans l'Ancien Testament. Mais vous voyez que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Hein? Après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, donc, il se prétendait sauvé. Il avait passé la mer Rouge. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Il les fit périr. Il fit périr les incrédules. C'est ce que nous avons lu ce matin. Exactement. Chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens. Et ils ont fait le grand festival du veau d'or. Puis ils ont dit à Moïse, on ne sait pas où il est allé. Il n'y avait pourtant que 40 jours qu'il était loin pour recevoir la loi de Dieu. Et ils l'avaient envoyé, ils avaient dit à Moïse, que Dieu cesse de nous parler, nous avons peur hein, quand il parle. Alors, qu'il parle avec toi, puis toi tu viendras nous redire les choses. Alors, pendant 40 jours, il est là sur la montagne, donc ils savent bien où il est. Ils disent à Aaron, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et alors, fais-nous un veau, comme il y avait en Égypte. Ils retournent dans leur pensée, dans leur cœur, où? En Égypte. Et puis, ils se prosternent devant le veau. Et Aaron dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Demain, une fête à l'Éternel. Vous vous rendez compte? On parle encore de l'Éternel, puis on a placé sous leur Dieu un veau d'or. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Il l'avait entendu, ce commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. Tu ne te feras point d'image. Ça y est, il y avait combien de temps que c'était dit ça? Il n'y avait pas 40 jours encore. Et ils étaient déjà là, avec leur veau, puis se prosternaient là-devant. Un bœuf qui mange de la paille. C'est ça notre sauveur. Vous rendez-vous compte de notre folie. Eh bien, vous savez ces choses, hein? Et qui périrent les incrédules. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont péri? Parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, et un deuxième exemple, enchaîné éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ça, c'est toute une histoire que vous pouvez trouver dans le chapitre 6 de la Genèse. Les anges, il est dit, sont des esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut. Et les anges, il y a eu donc une révolte, là c'est, il est question de cette révolte des anges. Et qui est-ce qui a amené la révolte? C'est Satan, hein? Qui était un ange, Lucifer, qui s'est élevé contre Dieu, et qui n'a pas gardé cette dignité de soumission à Dieu. Eh bien, les anges, il y a eu des anges qui se sont révoltés contre Dieu. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été condamnés et ils vont être jugés. Ils sont là. Alors, si Dieu touche à des anges, vous pouvez être sûr qu'il touchera aussi à des hommes. Comprenez-le bien. Si Dieu a touché aux Israélites, qu'il avait pourtant délivrés, bien ne pensez pas, ben moi je suis sauvé, je peux vivre comme je veux, je peux faire ce que je veux. Non. Si tu es sauvé, c'est pour aller au but. Et le but, c'est ce que Dieu a décidé. C'est sa volonté. Et puis, on me disait, mais moi, je suis sauvé. Oui, mais est-ce que tu vas au but? Il ne suffit pas de sortir d'Égypte, il faut entrer dans le pays. Et puis, maintenant, on me dit, mais moi, je vis près de Dieu. Les anges, est-ce qu'ils vivaient près de Dieu? Oui, ils vivaient près de Dieu. Alors moi, je peux dire, mais moi, je vis depuis tant d'années près de Dieu, que rien m'arrivait. C'est pourquoi je dis que l'assurance du salut est une assurance morale et non pas une assurance mathématique. Je ne suis pas sauvé comme 2 × 2 = 4. C'est une assurance morale. C'est l'œuvre du Christ qui me sauve. Ce n'est pas ma piété, ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ma vie sérieuse. C'est vraiment l'œuvre de Christ. Mais si cette œuvre a du prix pour moi, eh bien, le Saint-Esprit me fait marcher dans les voies du Seigneur. Et j'ai des exemples. Maintenant, le troisième exemple, c'est verset 7, que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux, comme les anges, à l'impudicité et à des vices contre nature. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens de Sodome? C'était des homosexuels. Des vices qui sont appelés des vices contre nature. Mais maintenant, on dit, mais c'est naturel, pourquoi pas ça? Hein? Et puis, c'est pas seulement homme entre hommes, c'est pas seulement femme entre femmes, mais maintenant, c'est même dans le mariage qu'on peut tout faire, n'importe quoi. Des vices contre nature. Ils sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alors, vous avez là 3 exemples, et qui sont des faits qu'on peut quand même contrôler. En tout cas, le premier exemple et le second, et puis le troisième et le second, on sait que c'est vrai, que le diable est une réalité, que les démons sont les puissances angéliques qui n'ont pas gardé leur dignité. Eh bien, si Dieu va juger même les anges, alors n'oublions pas que nous aussi, nous ne pouvons pas nous y tromper. Si, connaissant la vérité, nous n'avons pas l'amour de la vérité pour être sauvés, qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. C'est
Seigneur, nous voulons te demander que par ton esprit, tu éclaires encore cette parole, que tu la rendes vraiment vivante pour nous et qu'elle s'inscrive dans notre mémoire et qu'elle se fixe dans notre sensibilité afin que cette parole influence tout notre comportement et notre manière de vivre dans ce monde. Nous te bénissons parce que tu ne veux pas mettre de doute dans nos cœurs, mais tu veux mettre du sérieux dans nos vies. Nous te remercions parce que tu nous as affirmé que nous sommes aimés en Dieu, que rien ne peut nous séparer de ton amour. Mais tu veux que nous ayons des vies qui correspondent à notre appel et à notre vocation pour ta seule gloire. Et ce que tu nous as demandé, tu l'accompliras en nous si nous voulons aujourd'hui nous laisser faire par toi dans ton amour. En Jésus. Amen.